Deutsche Welle. Droits et libertés.
L'ouverture du procès de Bosco Ntaganda cette semaine devant la Cour pénale internationale était attendue depuis longtemps. Dans cette édition, nous reviendrons sur les crimes imputés à cet ancien chef de milice congolais, sur l'importance d'un tel procès et nous entendrons aussi le témoignage d'un jeune garçon qui, lui, a réchappé de l'enfer après avoir servi comme enfant soldat. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. République démocratique du Congo, région de Walikale, dans le Nord Kivu. Daniel a 15 ans quand une milice armée assassine sa mère. Les miliciens enlèvent ensuite le garçon, l'emmènent dans un bois où ils le torturent.
Ils m'ont pris en disant si je ne veux pas aller dans l'armée, ils vont me tuer. Et j'ai fait 2 semaines sans avoir mangé. Ils m'avaient frappé d'ailleurs beaucoup et... Donc, il me mettait dans une eau. Après cela, j'ai beau être aussi un soldat comme les autres.
Durant 3 ans, Daniel doit combattre pour des milices différentes. Depuis le mois de janvier, il vit à Goma, dans un centre de formation de l'équipe d'éducation et d'encadrement des traumatisés de Nyaragongo, l'ETN. Cette structure accueille 275 anciens enfants soldats et enfants des rues qui apprennent un métier. Des ateliers de menuiserie, de cuisine, de coiffure, de soudure sont proposés aux enfants, en plus de cours d'hygiène, d'histoire ou d'éthique. L'objectif est que, garçons comme filles, ces jeunes reprennent pied dans la société, ce qui n'est pas chose facile.
Comme ils proviennent pour certains fraîchement de forêts.
Pascal Badibanga Zagabe, directeur de l'ETN.
Bon, ils veulent à tout moment se battre, prendre des drogues, tout ça. Et nous devons les accompagner avec des conseils. Juste au début, nous mettons en place des règlements d'ordre intérieur qui les amènent petit à petit. À retrouver la voie de la légalité, de la loi.
Daniel aussi aimerait bien retrouver une vie normale. Il suit une formation de plombier et espère bien pouvoir un jour se marier et fonder une famille. Quand il aura des enfants, Daniel se promet de mieux faire que son propre père, qui ne s'est jamais vraiment occupé de son fils et préférait dépenser le peu d'argent du ménage dans de l'alcool. Mais Daniel a quand même un peu peur de ce qu'il attend quand il sortira du centre où il est en train de se reconstruire.
Mon rêve m'envoie de trouver un travail. Mais parce que je n'ai pas une connaissance, je peux passer dans de tels rêves, je peux rêver cela, mais quand cela ne s'appuie pas à une connaissance, c'est-à-dire c'est ce chaos.
Les travailleurs sociaux qui encadrent les jeunes du centre essaient de les aider du mieux qu'ils peuvent à trouver un travail, mais le marché de l'emploi est plutôt bouché dans l'est de la RDC. La guerre, la criminalité, la corruption omniprésente sont autant de facteurs qui rebutent les entrepreneurs et investisseurs étrangers. Certains anciens enfants soldats parviennent à ouvrir leur propre atelier ou leur propre garage de réparation de voitures. Certains obtiennent même un petit coup de pouce financier d'ONG pour monter leur affaire. Mais les budgets sont serrés et la plupart des jeunes finissent par retourner dans leur village d'origine après avoir suivi un programme de réintégration. Et ensuite, ils doivent se débrouiller tout seuls. Et c'est bien ça qui inquiète Lavinia Lomi. Cette Italienne travaille à Goma pour la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en RDC, dans le service de la protection de l'enfance.
A big challenge would be the insecurity that these children might face, in particular.
L'insécurité est un grand défi pour les enfants, surtout pour ceux qui rentrent dans leur région où des conflits armés sont toujours en cours. Il y a toujours un risque qu'ils soient de nouveau recrutés par la même milice qu'avant.
Depuis le début de l'année 2015, plus d'un millier d'enfants soldats se sont rendus à la MONUSCO, soit presque autant en 6 mois que sur l'ensemble de l'année dernière. En réalité, personne ne sait exactement combien de jeunes filles et de jeunes garçons ont été enlevés en tout par les groupes armés, sans doute des dizaines de milliers dans la région. Et le recrutement par les milices continue. Daniel, lui, a été recruté de force par une milice particulièrement brutale et le retour à la vie normale lui pose encore plus de problèmes qu'aux autres jeunes. Il a coupé tous les ponts avec son village d'origine.
Ils ne savent pas l'avantage de nous, les enfants. C'est pourquoi ils nous prenaient par force et en allant avec nous dans la forêt. Mais ils peuvent être même condamnés par la loi, selon mon choix. Parce qu'ils nous avaient abîmés, ils nous avaient amenés, ils nous avaient laissés dans un blocage de notre vie. Tel que moi, je ne peux plus marcher là, dans Walikale, dans des forêts. Parce que je risque même les gens. Et cet enfant, il m'avait volé ma chèvre ou soit mes habits. Il fallait que je les tue. Et directement là, on peut tuer quelqu'un par rapport aux ordres mal donnés de ses chefs.
Faut-il vraiment le préciser, le recrutement d'enfants soldats est interdit par le droit international et le droit congolais qui considère cette pratique comme un crime grave. Pourtant, en RDC, les chefs de milices qui traumatisent ainsi des enfants en les recrutant pour se battre ou pour les exploiter en tant qu'esclaves sexuels s'en sortent souvent sans devoir rendre de compte devant la justice. Alors Pascal Badibangazagabe espère que le procès de Bosco Ntaganda aura valeur d'exemple et qu'il aura aussi un effet dissuasif sur les autres criminels du pays et d'ailleurs.
S'il n'y a pas de justice, le monde va périr dans peu de temps. Et nous pensons que ça, c'est une leçon pour les autres chefs de groupes armés qui continuent à faire des dégâts.
Le procès de Bosco Ntaganda, qui s'ouvre donc cette semaine, portera sur deux attaques perpétrées en 2002 et 2003 dans deux districts de RDC, Banyalikilo et Walendu-Djati. Ancien général de l'armée régulière congolaise, Bosco Ntaganda a également été à la tête de milices armées à partir de la fin des années 1990, parmi lesquelles les Forces patriotiques pour la libération du Congo ou encore le M23. La CPI a émis un premier mandat d'arrêt contre lui en 2006, puis un second en 2012. Il est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité, dont le recrutement d'enfants soldats, des viols, des meurtres et le recours à des esclaves sexuels. Bosco Ntaganda, qui s'est rendu de lui-même en 2013 à l'ambassade des États-Unis au Rwanda, au moment où de fortes dissensions avaient cours à la tête du M23, est le premier commandant à répondre de ses chefs d'accusation devant la Cour pénale internationale. Pour parler de son procès, nous recevons maintenant Clément Capo-Chichi, le coordinateur régional de la Coalition pour la CPI pour l'Afrique. Bonjour.
Bonjour, madame.
En quoi le procès de Bosco Ntaganda est-il si important ?
Le procès de M. Bosco Ntaganda est l'aboutissement d'un long processus. Enfin, des victimes qui attendent depuis qu'on leur rende justice vont avoir droit à un début de satisfaction.
La Cour pénale internationale avait étudié à un moment la possibilité de tenir le procès de Bosco Ntaganda en RDC, mais finalement, donc, il aura lieu aux Pays-Bas pour raison de sécurité. Deux représentants légaux vont y représenter plus d'un millier de victimes. Est-ce qu'il n'est pas dommage quand même que ce procès se tienne si loin des lieux où les crimes ont été commis ?
Tout à fait. Il est dommage qu'on ne puisse pas tenir ce procès sur le lieu où les crimes ont été commis, mais comme vous le savez, les conditions ne sont pas remplies pour tenir ce procès sur ces lieux-là. Et bien entendu, nous le regrettons, mais nous pensons que c'est un processus qui va prendre du temps. Le plus important pour nous, c'est que ce procès ait lieu.
Et une dernière question pour finir. La CPI enquête actuellement sur 9 autres cas en République centrafricaine, en RDC donc, au Soudan, en Libye, au Kenya, en Somalie, en Ouganda, au Mali et en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne tend pas à confirmer le soupçon de nombreux Africains qui estiment que la Cour pénale internationale ne s'intéresserait qu'à l'Afrique et laisserait de côté les crimes commis par les Occidentaux ?
Tous les cas que vous avez cités, madame, sont des cas pour la plupart qui ont été référés à la Cour par les États eux-mêmes. Je rappelle que la CPI ne se substitue pas au système national de justice pénale. Elle en est que le complément.
Parce que le rôle de la CPI, donc, c'est de juger des affaires pour lesquelles la justice nationale, soit n'a pas les moyens d'assumer les poursuites, les enquêtes elles-mêmes, soit quand les États n'ont pas la volonté de le faire. Hein.
C'est la mise en œuvre du principe de complémentarité. Mais ce qui se passe, c'est que nous constatons malheureusement que les États africains ne donnent pas les moyens à leur justice au niveau national de poursuivre et de juger les crimes. Par conséquent, il est tout à fait normal, parce que les victimes dont nous parlons, elles sont africaines, que la Cour pénale puisse donner justice à ces victimes-là, parce que nos États africains sont défaillants sur la question. Qu'ils vous souviennent, madame, que la République démocratique du Congo a ratifié le statut de Rome et a déféré depuis le 3 mars 2004 la situation, l'ensemble des événements relevant de la compétence de la Cour prévalant sur son territoire depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome. Ça, c'est un cas important qu'il faut mettre en exergue. Mais par ailleurs, ce que nous remarquons et que nous déplorons au niveau des États, c'est tout simplement que nos États ne donnent pas les moyens à la justice nationale de faire son travail. Et notre souhait, c'est que nos États, de plus en plus, permettent au système judiciaire d'avoir la capacité de juger effectivement des crimes dont nous parlons. Parce que l'impunité fait le lit des crimes de demain.
Clément Capo-Chichi, coordinateur régional de la Coalition pour la CPI pour l'Afrique, merci beaucoup.
Merci madame, merci pour votre appel.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Judith Raup et Clément Capo-Chichi. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la télécharger, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique « Nos podcasts ». Pour nous écrire, une seule adresse, français@dw.com, sans la cédille à français. Salut et à la semaine prochaine.